I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alternative Football.
C'est clair, fonds d'investissement, beaucoup d'argent, on s'est dit c'est génial, on va aller tous renégocier nos contrats, on va avoir des super joueurs et ça va faire passer l'équipe à un autre niveau. Et ça ne s'est pas passé comme ça en fin de compte.
Ouais, l'histoire a été un peu différente, mais bon, c'était assez exceptionnel à l'époque où tu l'as vécu. Maintenant, c'est devenu monnaie courante, tu as des clubs qui sont rachetés quasiment tous les mois par des fonds pas américains. C'est un truc que j'aimerais bien comprendre, ça, un peu mieux comprendre. En tout cas, t'as pas quelqu'un, toi, qui pourrait nous éclairer sur le sujet ?
Bah oui, écoute, oui, j'ai Antoine Gobin, qui est franco-américain.
D'accord.
Et qui va nous expliquer un petit peu que quand il y a un fonds d'investissement, c'est pas la gabegie et c'est rationalisation des coûts, mais qu'il y a fonds et fonds.
Mais ça me parle, Antoine Gobin. Pourquoi ça me parle ? C'est pas le plus jeune président d'Europe ou un truc comme ça ?
Exactement. Et pour ça qu'on va le voir et qu'il va nous expliquer pas mal de belles choses.
Je maîtrise bien mon sujet quand même, non ?
Ah, t'es bon.
Allez, c'est parti.
Alternative Football. Alternative Football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Crois-moi, ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative Football. Le podcast hors terrain de SoFoot, présenté par Édouard Cissé et Mathieu Lille Palette.
Salut à tous. Bienvenue pour un nouvel épisode, le 11e, si je ne m'abuse, d'Alternative Football. Je suis bien entendu accompagné de mon compère, Monsieur Cissé.
Salut Mathieu.
Comment allez-vous, Monsieur Cissé ?
Super bien. Et toi ?
C'est vrai ? Bon week-end ?
Ouais, super week-end.
Sur les terrains avec Prime ?
Ouais,
si
j'ai
eu
beaucoup de buts.
C'est vrai ?
À Strasbourg, beaucoup de buts.
Plutôt chanceux.
Chanceux, ouais.
On reçoit aujourd'hui Antoine Gobin. Bonjour Antoine.
Salut les gars.
Salut Antoine.
Merci de m'avoir invité ici.
Alternative Football.
On a la chance effectivement que tu sois là aujourd'hui et que donc on te reçoive pour parler d'un vaste sujet qui est assez actuel. On va parler ownership. Pardon, je commence avec mes anglicismes. Je sais que ça ne dérange pas, ça va peut-être plus déranger. Je ne te regarde pas toi précisément, mais les autres. Mais on va parler fonds d'investissement. Et le thème précis, et j'en suis assez fier parce qu'il y a un joli jeu de mots dont je revendique la paternité. Pourquoi le football touche-t-il les fonds d'investissement ?
C'était pas ça que tu avais dit.
Si ?
Non, c'était pourquoi le football touche-t-il le fonds
d'investissement.
Et voilà, entre parenthèses.
Tout est dans le.
Bah, sinon, pourquoi non ?
Et on va mettre les pieds dans le plat direct, du coup, et on va essayer de commencer par le commencement. C'est quoi un fonds d'investissement ?
C'est très vaste comme question. Un fonds d'investissement, il y a vraiment deux types. Il y en a un qui permet en fait à un groupe de personnalités, d'individus, de personnes, de pouler, de mettre leur argent ensemble dans une structure et puis derrière de l'investir. Et c'est leur fonds, c'est leur propre argent. Et l'autre qui est, on va dire, un peu plus commune, qui est en fait un fonds, grosso modo, de récolte de fonds. Donc, ils vont auprès de différentes institutions, individus aussi, avec la stratégie, avec une stratégie définie. Donc, ça peut être, on va investir dans des structures à perte, dans des structures plutôt stables, dans des structures sportives, dans une industrie X ou Y, avec des buts, donc des buts de récolte de fonds. On va essayer de lever 100, 200, 500 millions, peu importe, avec un objectif de timeline, de quand est-ce qu'on va devoir reverser l'argent, est-ce que c'est dans 3 ans, dans 5 ans, 7, 10 ans, et avec des objectifs de ROI, de retour sur l'investissement. Donc, on vous demande telle ou telle somme parce que d'ici 5 ans, d'ici 7 ans, on pourra vous la rendre avec X% de plus de bénéfices. Et donc derrière ces fonds-là, qui sont très très communs aux États-Unis, c'est un vecteur d'investissement pour des boîtes, pour des banques, pour des personnes riches, pauvres, peu importe, mais pour, en fait, pour investir leur argent sans que ce soit en bourse, sans que ce soit dans une structure, mais en fait dans des gestionnaires. Et après, ces gestionnaires, c'est pas eux qui vont... enfin, après, derrière, il y en a plusieurs. Il y en a qui sont gestionnaires, qui sont opérationnels, qui reprennent l'activité en main de la boîte qu'ils vont racheter ou des centaines, des dizaines de boîtes qu'ils vont racheter. Ils reprennent l'activité, ils mettent en place des personnes de confiance ou des opérateurs pour restructurer et pour derrière revendre ces boîtes-là. Ou il y en a qui sont plutôt passifs et qui vont juste récolter les fonds, ou enfin lever les fonds, redistribuer dans des compagnies qui on va dire sont ils les réinvestissent dans des compagnies qui matchent leur objectif, que ce soit l'industrie, que ce soit en croissance ou peu importe, et après donc pour des pourcentages passifs dans la boîte, et derrière revendent leur pourcentage après X années. Donc en fait c'est
donc il y a deux types de fonds, tu m'as dit premier, parce que c'est là on va rentrer un petit peu dans la technique. Le premier fonds classique, c'est-à-dire les mecs, il y a des gars qui sont super blindax, ils disent voilà, on se réunit, c'est comme un club deal, on réunit nos fonds et on va investir dans un club de foot. Ou alors tout simplement, il y a la levée de fonds, on n'a pas d'argent, on a une idée et on va aller chercher de l'argent auprès de auprès de banques, d'institutions pour aller investir.
C'est ça.
La plupart des fonds donc, il y a ça, c'est les fonds dans les clubs de foot, c'est plus des fonds ownership, enfin des gens qui sont blindax, ou alors tout simplement des gens. Moi, j'ai envie d'aller investir dans un club, je sais pas moi, en France. Je vais lever de l'argent. C'est plus des levées de fonds ou alors des club deals?
Donc, comme toute bonne réponse, ça dépend. mais en France, on a eu, en termes de fonds, on peut toujours dire que, par exemple, que les investisseurs à Marseille ou au Havre sont des fonds. Ouais. Au final, c'est l'argent...
Ouais, du
d'une personne, voilà. D'un proprio, mais c'est pas, c'est, ça va via un fonds. Même chose en Angleterre, Fenway Sports Group à Liverpool, c'est un fonds, mais c'est très peu de personnes qui sont dans ce fonds-là. Après, dans certains groupes comme Elliott Management, comme Redbird...
Ils ont quoi comme club ?
Elliott, c'est un peu de tout. C'est ceux qui avaient la dette à Lille. C'est aussi ceux qui sont à Milan. Redbird, c'est les nouveaux propriétaires, enfin, depuis plus d'un an, à Toulouse. Eux, ce ne sont pas leur propre argent à deux ou à cinq personnes, mais ils ont fait une levée de fonds avec des objectifs spécifiques. Et une des entreprises, j'aime pas parler de club de foot en entreprise, mais une des entreprises dans lesquelles ils ont investi, c'était un club de foot, ou c'était de la dette dans un club de foot.
Alternative football.
Et là, je vais te poser une question. Donc, en fin de compte, l'idée, si moi je veux... là, je vais...
Fais-toi plaisir.
Hein, on est d'accord.
Comme sur le terrain.
Je veux acheter un club de foot.
Oui.
Il est plus intéressant que j'achète un club de national des D2 pour être sûr d'avoir, entre guillemets, un meilleur ROI, un retour sur investissement, avec si je monte. C'est plus intéressant au niveau de stratégie. Là, je te parle vraiment, je te demande une stratégie. Qu'est-ce qui me conseille? Tu me conseilles de faire, de racheter un fonds, un club en national et en D2 et de le structurer pour pouvoir monter. Ça peut convaincre les investisseurs.
Alors, Edouard, je crois que ta perspective est la bonne. Si le but, c'est de se faire un ROI, un retour sur investissement, que ce soit en 3, 5, 7, 10 ans, peu importe. Donc déjà, il faut avoir des bons opérateurs, il faut avoir des bonnes personnes pour manager un club, que ce soit du niveau sportif ou extra-sportif. Mais ça serait, donc, dans ma perspective, j'ai pas l'argent pour, mais ça serait plus intéressant de racheter une petite structure qui a, on parle très souvent, surtout en France, de déficit structurel de club. Donc un déficit structurel, les gens aiment bien dire, regardez, tel ou tel club a 200 salariés pour tel ou tel chiffre d'affaires. Ils ont dirais, au final, la structure extra-sportive représente maximum 20% des coûts d'une organisation. Au final, c'est vraiment les salaires.
Salaires
des joueurs, les salaires du staff sportif qui vont faire que ton déficit structurel qui est à 10 ou à 15 ou à 25 millions peut descendre de 2, 5, 10 millions. J'aime bien tous les ans regarder, je sais pas si j'ai le droit de faire la pub pour l'équipe, mais j'aimerais regarder leur comparatif des salaires moyens dans tous les clubs. Et regarder l'évolution sur les quelques dernières années. T'as certains clubs qui dans leur grille salariale sont très stricts, qui de temps en temps c'est très basé sur les résultats. Et si on se maintient, vous avez X% en plus et prime de match et prime de performance, etc. Et après, c'est très intéressant de voir l'augmentation de ces salaires l'année après une bonne saison. Et donc c'est Sadran à Toulouse qui a dit la pire des choses c'était quand ils se sont qualifiés pour la Ligue des Champions et que l'année d'après on a beau dire en tant que dirigeant de club les gars notre but c'est pas la Ligue des Champions, notre but c'est la stabilité, c'est d'avoir un club qui peut être compétitif tous les ans, mais une année en Ligue des Champions derrière c'est impossible de pas un peu la jouer. Donc c'est impossible de pas faire venir des joueurs qui on n'a pas nécessairement l'habitude de recruter ce type de joueurs. On n'a pas nécessairement l'habitude de, d'avoir ces grosses sommes dans la trésorerie qui sont liées à la Ligue des Champions. Et ça flingue les 3-4 prochaines années. Mais ce qui aurait de logique, et il y a très peu, toi, je crois que tu connais Edouard, il y a très peu dans le foot qui est logique. Ça serait logique, je crois, aujourd'hui, surtout dans un environnement où les droits télé des années suivantes ne sont pas assurés, ne sont pas garantis, de moins en moins même. Donc on ne peut pas budgéter à plusieurs années dans l'avenir. On ne peut pas dire, comme les clubs faisaient il y a deux ans, on va avoir une pactole de 40% en plus en chiffre d'affaires, donc on peut signer des contrats à 3, 4, 5 ans pour des sommes à l'époque astronomique, mais on se disait ça sera la norme d'ici quelques années. C'est pourquoi racheter un club en première division avec un déficit structurel de pour la majorité des dizaines de millions d'euros plutôt que d'aller dans un petit club, on peut dire des petites structures comme si on en prend quelques-unes, Dunkerque, Pau, Orléans, Annecy, je ne choisis pas des structures, on n'en regarde aucune structure chez nous là en France, donc ce n'est pas notre shortlist, mais pourquoi pas faire ça. Et moi, la seule réponse à laquelle je peux penser, c'est qu'il n'y a pas le prestige. Il n'y a pas le prestige de dire on a un club en première division. Il n'y a pas le prestige de dire « Regardez dans notre armoire les titres qu'on a gagnés il y a 30 ans. » Il n'y a pas le nom. Vous allez aux États-Unis, Dunkerque, ouais, peut-être, merci Clint Eastwood, ils savent où c'est. Mais Pau, Annecy, Orléans, Niort, Angers, ils ne savent pas. Reims, tu leur dis champagne, là ça c'est. Bordeaux, c'était le vin.
Ouais.
Mais Pau, ils savent pas.
Absolument.
Il y a d'autres mecs.
Ça parle pas.
Edouard, peut-être. Hein. C'est ça. C'est des gens qui sont très intelligents. Je parle d'un point de vue investissement. S'ils se sont fait tout cet argent et c'est encore plus aux États-Unis, c'est la loi de l'argent qui fait parler. C'est le plus argent tu as, le plus intelligent tu as été dans ta carrière. Donc moi, je suis franco-américain, je suis un peu des deux. Et c'est vraiment comme ça qu'ils pensent. Donc c'est comme ça qu'un mec comme Donald Trump peut être un des plus grands génies de l'ère moderne américaine.
Parce que il est milliardaire.
Parce que justement, il dit qu'il est milliardaire.
Tu parles, excuse-moi de te couper parce que je vais oublier ma question. Désolé. On parle beaucoup des fonds américains. Est-ce qu'il y a des fonds français ?
Il y a...
Pourquoi les fonds d'investissement américains investissent en France et il n'y a aucun fonds français qui investit en France ?
Parce que je crois qu'il y a une très différente culture de l'investissement dans le foot, dans le sport en général. Il y a très peu de gens qui voient le sport comme une avenue efficace pour leurs investissements. En France, le sport... Enfin, aux États-Unis, donc moi je suis allé à la fac aux États-Unis et le foot a aidé à me faire recruter. Derrière, quand je passais des entretiens de stage ou d'embauche, le fait que j'ai joué au foot, le fait que j'ai joué dans une équipe, que je passais en moyenne 20-25 heures par semaine sur les terrains ou dans la gym, ou... ça montre un niveau de travail, de teamwork, comme ils appellent. Et en fait, pour les boîtes américaines où on ne compte pas vraiment les heures, ça montre le fait que d'accord, tu es capable d'aller à 20 heures de cours par semaine et faire
et
ça.
Et en plus de ça.
Et voilà.
T'as la discipline.
En fait, c'est un moyen de recruter dans tous les domaines derrière. C'est un moyen aussi, tu mets ça sur ton CV aux États-Unis, j'ai fait tel ou tel sport, j'ai joué. Moi, une partie de mon CV, c'était aussi pour envoyer au coach une vidéo de mes actions. Et ça, c'était dans mon CV d'application pour l'université.
Et avoir été et être franco-américain, ça t'aide ?
Oui. Donc, à être français, je ne sais pas si ça m'aurait aidé juste comme ça. Avoir été fan de foot toute ma vie, avoir joué, avoir travaillé dans le foot aux États-Unis aussi. Donc, avoir eu ce côté opérationnel, je crois que ça m'a aidé. Avoir travaillé des deux côtés, donc et du côté investissement et après du côté sportif, je crois que ça m'a démarqué. Après, pour moi, ça me permet aussi de savoir quelles choses ne peuvent pas marcher dans un club de foot ou quelles choses est-ce qu'il faut accepter en Europe par rapport aux États-Unis que, voilà, on a beau vouloir... les Américains, c'est une grosse mentalité de ça a marché aux États-Unis où le sport est vraiment un business, où un spectateur, c'est un consommateur. Un spectateur en France, un fan, un supporter sera toujours supporter d'abord et après et après potentiellement consommateur.
Un client.
Mais ça sera pas l'inverse. C'est un Américain qui disait si tu essayes de prendre le portefeuille de ton spectateur, tu le perdras pour toujours. Si tu essayes de toucher son cœur, il te donnera son portefeuille.
Ouais, mais c'est ça, qui est une vraie bonne métaphore, c'est-à-dire que tu vas le chercher sur l'émotion, et de l'émotion vient l'action commerciale et la démarche de vendre. Et justement, il y a un truc qui, selon moi, est essentiel pour que ça marche, le fonds d'investissement. Et on parle beaucoup américain, mais on en reparlera après, il y en a partout. Il y a besoin d'une réconciliation, en fait, dans le foot, entre la vision, effectivement, d'investissement qui est structurée, qui est réelle et qui est motivée par un retour sur investissement, un point qui est donné et qui est calculé avant. C'est-à-dire que quand je viens, je suis GACP, je suis Redbird, je vais à Toulouse, c'est parce que, voilà, mon plan, c'est que ça retombe ici, je retombe sur mes pattes ici et que je paye ceux qu'on misait à la base. Et donc, réconcilier cette vision-là avec la vision européenne du sport, à savoir le résultat sportif. Que tu as forcément moins aux États-Unis la notion de résultat, parce que déjà, il n'y a qu'une seule équipe qui peut gagner, tu n'as qu'une seule compétition par sport, et tu as foison de franchises, et donc tu crées des produits émotionnels, mais pas forcément en passant par la victoire, alors qu'en Europe, tu es quand même drivé par ça quand tu supportes un club. Et c'est cette rencontre-là, ce besoin de réconciliation, merci, qui est nécessaire. Et le fait, toi, de connaître les deux côtés, ça te permet d'être meilleur, tu penses, dans ton travail ?
Je crois que oui. Je crois que ça me permet de... ça permet aussi d'expliquer les différences entre les mentalités. Dans mon programme, après ma fac, j'étais consultant. Ça veut dire beaucoup et ça veut rien dire en même temps. Pendant 4 ans et demi, j'étais pas passionné. Et en fait, ma femme est danseuse de ballet. Moi, je la voyais faire ce qu'elle aimait. Je me disais, c'est con, la vie c'est trop court pour pas faire ce qu'on aime. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait un master pour me lancer dans le sport. Et pendant un cours, on parlait des changements géographiques de certaines franchises. Par exemple, les St. Louis Rams qui sont allés à Los Angeles, les Seattle Supersonics qui sont allés à Oklahoma. Là, maintenant, les Raiders de Las Vegas, avant ça, c'était Oakland, avant
puis
ça,
même,
c'était Los Angeles.
C'est très bien. Les Lakers qui sont,
allés de Minneapolis.
Il n'y a pas de lac à Los Angeles. Hein, donc,
Moi, je suis fan des Sacramento Kings et eux, c'était à Kansas City avant. Ouais. Mais tous mes camarades de classe européens qui disaient, mais attends, on a le droit de changer de ville? C'est bah ouais, c'est si on peut trouver de l'argent quelque part d'autre, on avec des structures marketing et du côté on créera des fans comme ça. Et c'est ça, aussi toute la structure de la MLS aujourd'hui. La structure, c'est créer des franchises avec, là aujourd'hui, Austin FC au Texas. C'est le premier club professionnel de sport à Austin, une énorme ville qui se développe énormément au Texas. Et c'est sold out, c'est guichet fermé tous les matchs, c'est un engouement populaire, mais comme si c'était un club historique. Ouais, à l'entrée du stade, ils distribuent des fiches avec les paroles des chansons pour que les gens.
Mais après les chants,
Mais c'est ça, c'est un business et on peut créer de l'émotion à partir de rien.
Ils réfléchissent en marché. C'est-à-dire que pour eux, Miami, ce n'est pas une ville. Miami, c'est Miami et la Floride, c'est un marché. C'est quoi ma concurrence? C'est quoi les autres franchises? Est-ce que c'est intéressant? Et quand tu parles avec. On travaille beaucoup avec les organisations américaines aussi. Ils ne te parlent pas de ville. Ils te parlent de marché. Effectivement, si la franchise, si le market à Miami est meilleur, eh ben, va déménager à Miami parce qu'il y a un trou. Il n'y a pas de soccer. C'est vraiment l'opportunité. Et c'est là où, effectivement, la grande différence avec l'Europe, c'est que ça n'existe pas ici. C'est-à-dire que la territorialité est beaucoup plus importante. Elle définit le sport ici, ce qui est moins le cas au. Bon, après, si t'as aussi des franchises qui sont historiques et qui bougeront peut-être pas, mais.
Après, ce côté marché, ça joue aussi pour beaucoup de fonds, dans un des critères de comment est-ce qu'on va choisir un club. Est-ce que c'est dans un grand marché économique, donc un Bordeaux, un Toulouse, grandes villes comme Paris, Nice, Milan, Londres, etc. Est-ce que c'est proche d'une grande ville? Non seulement pour le côté développement économique, mais aussi d'un côté scouting, d'un côté transfert de joueurs. On sait très bien que quand on est en Ligue 2 et quand on va jouer un match à Paris contre le PFC, le Paris FC par exemple, il y a trois fois plus de recruteurs que quand tu te déplaces en Corse. Et c'est juste la loi du jeu. Et parce qu'on sait très bien que les recruteurs, non seulement les agents, mais les scouts de différents clubs peuvent dire « Ok, je suis à Paris, je vais faire 5 matchs dans le week-end », tandis que si je dois me déplacer dans le sud-ouest de la France, bah, t'as Pau, Toulouse, Bordeaux, et puis très rarement est-ce qu'ils vont jouer en même temps le week-end. Mais ce côté marché stratégique... Dans beaucoup de présentations de différents fonds d'investissement sur pourquoi est-ce qu'on va racheter tel ou tel club, c'est X, cinquième ville française, première dans telle ou telle industrie. Okay. Et c'est en grande partie, c'est presque avant même l'historique du club.
Tu peux nous parler un petit peu de la façon dont tu as été, entre guillemets, recruté, chassé? Est-ce que tu as démarché, tu as fait le bottin des fonds d'investissement, tu as dit « je veux ça » ou alors c'est eux qui t'ont démarché?
Moi, je travaillais à la MLS. J'ai vu que dans les journaux, il y avait des rumeurs de reprise de Bordeaux. C'était en 2018. J'ai contacté tout le monde qui était dans la presse, tout le monde du côté de GACP à l'époque. On m'a répondu dans les 5 minutes. Donc, je me suis dit, waouh. Donc, moi, ma famille, on est aux États-Unis. On est installé à Saint-Jean-de-Luz depuis presque une quinzaine d'années, une vingtaine d'années maintenant. C'est là où je suis marié. Il y a quelques maillots de Wasland Beveren de mon club qui se promènent là-bas. Donc je crois que ça fait un peu bizarre. Mais je les ai contactés. Ils m'ont répondu immédiatement. Et après, ça a duré. En fait, je n'ai pas eu de réponse pendant 8 mois. Et donc, pendant ces 8 mois-là, toutes les quelques semaines, à chaque fois que je voyais un article, je renvoyais. Ils ne me connaissaient pas du tout. Moi, je ne les connaissais pas. J'essayais de démarcher dans mon réseau. Est-ce que vous connaissez des gens à droite, à gauche? Et personne vraiment les connaissait. Et puis après, le rachat s'est finalisé en novembre 2018. Je les ai recontactés avec une présentation, avec en fait avec un PowerPoint très américain, très consultant, en disant regardez, voici mon CV, voici donc du côté droit télé sportif, j'adore le foot, mais je ne suis pas, c'est pas pour ça que vous me recruteriez. Donc je vais pas toucher à ça, à vos 70% des chiffres d'affaires potentiels ou 80%, mais tout le reste. Je peux aider, je crois que si j'étais à votre place, voici une stratégie d'un point de vue merchandise, d'un point de vue ticketing, d'un point de vue événementiel autour du club, des différentes efficiencies, des opportunités que vous pourriez faire d'un point de vue et chiffre d'affaires et aussi d'un point de vue coût opérationnel.
Alternative Football.
Et je me souviens, c'était j'ai eu donc Joe Dagrossa la veille de Noël, et après au Nouvel An j'ai eu Hugo Varela, et une semaine après m'a embauché, et une semaine après ça j'étais à Miami pour les rencontrer pour la première fois, et trois jours après ça j'étais à Bordeaux en connaissant personne à Bordeaux. En étant tout seul, ma femme est restée à New York pendant un an, je la voyais toutes les six semaines, et puis en fait en me lançant, ma première expérience dans le foot européen. Ah ouais.
Donc tu as parlé du groupe GACP, et je pense qu'il y a des gens qui connaissent pas, qui comprennent pas, qui n'ont pas tout compris. Il y avait GACP, King Street, Fortress, donc il y avait plusieurs fonds qui ont racheté le club. Est-ce que tu peux éclairer ça, parce que si t'es pas qu'un seul fonds. Et en fin de compte, en expliquant ça, je pense que ça expliquera mieux pourquoi,
donc,
le comment du pourquoi.
Donc, tu avais un fonds qui était un peu la tête du projet, qui était ceux qui avaient une idée en tête, qui avaient une thèse et qui sont allés présenter cette thèse à tout le monde, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, un peu à travers le monde, en disant voici ce qu'on aimerait faire dans le foot européen.
Qui était
GACP.
OK.
Donc, c'est l'opérateur.
OK.
Ceux qui leur ont donné l'argent, c'est... Les deux autres fonds, King Street, qui sont devenus actionnaires majoritaires, et Fortress, en fait, qui leur ont donné de la dette. Donc, en fait, leur ont donné l'argent, une banque, en disant on n'a pas envie d'être actionnaire, mais on va vous donner de l'argent pour votre projet.
Est-ce que, du coup, GACP a besoin d'avoir des fonds propres pour aller lever et aller chercher de l'argent? Est-ce que Dagrossa et éventuellement Varela ont mis de l'argent dans GACP pour pouvoir lever?
Ils ont mis de l'argent, après, par rapport au reste...
Que dalle.
C'était très peu.
Ouais, ouais, d'accord.
Très
okay.
peu.
OK. Donc, King Street, Fortress, leur prête de l'argent. Et après, c'est...
Donc, Fortress leur prête de l'argent, King Street met ses propres fonds. Donc, ils avaient levé un fonds qui avait X centaines de millions, et ils ont mis une partie de ces X centaines de millions dans le projet GACP, le projet Bordeaux.
OK. Donc voilà, moi c'est clair.
On a remis l'église au centre du village.
Je crois qu'à un moment donné, il faut expliquer.
Comment
il y a fond et fond.
Il y a fond et fond.
Et pour rester dans le cœur du sujet, on remarque beaucoup d'investissements vers la France dans les clubs de foot. Comment est-ce que tu l'expliques, ça? Parce que potentiellement, je peux te dire, il y a quand même au moins quatre autres marchés voisins qui peuvent être intéressants. Pourquoi est-ce que la France attire autant les investisseurs étrangers?
Donc, moi, je crois que c'est récemment, c'est un championne du monde.
OK.
Deux, c'est le plus gros vivier de talents au monde, à Paris. Surtout dans la région parisienne, et puis après dans le reste de la France.
À Pau un petit peu aussi quand même.
À Pau, c'est générationnel, on va dire. C'est tous les 20 ans.
Ouais, c'est...
Il y a Dado Perchaud, je crois, qui est encore à Pau là, mais je crois pas qu'il
joue. Il y a des missions, ouais.
ils sont aussi... la LFP était très, très, très actif aux États-Unis. Est très proche des différents fonds pour les faire venir. Donc pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas ? Donc déjà, ils vont énormément en Angleterre, les fonds d'investissement. Il y a, je crois, plus de la moitié ou même genre deux tiers des clubs en première ligue qui sont propriétaires internationaux. Donc pas que des Américains, mais internationaux. En Allemagne, avec les 50+1, c'est quasiment impossible. Ouais. Pourquoi est-ce que la France est plus attractive ? Je crois que c'est aussi parce que une grosse majorité des clubs français sont à vendre.
Ouais.
Et en Italie, il y en a beaucoup. Il y a t'as Venise, l'AC Milan, l'Inter, Spezia, Salernitana, je crois qu'il va devoir être racheté aussi.
T'as Parme qui a été racheté il n'y a pas longtemps.
Voilà.
Et est-ce que du coup, les supporters... Alors on a parlé de l'Italie, ok. Et, tu as dit qu'il y avait beaucoup de clubs français qui étaient à vendre. Est-ce que du coup, les supporters ont du souci à se faire? J'espère pas en écoutant le podcast, parce qu'ils vont comprendre qu'il y a fonds et fonds. Donc il y a des fonds qui sont là juste pour spéculatifs, qui vont juste faire du trading de joueurs, parce que c'est un mot qu'on a entendu ces dernières années, trading de joueurs, donc il n'y a pas de sentiment d'appartenance, on fait de l'argent avec les joueurs. Ou alors peut-être qu'il y a peut-être des fonds, on va dire, impact investment, c'est la tendance. Ouais. C'est-à-dire qu'on va essayer de créer du lien, structurer le club correctement pour faire vivre des émotions et s'appuyer sur un territoire, faire une de l'activité économique.
Tu as complètement raison, il y a fonds et fonds. Et tu regardes ce que en un an et quelques Red Bird a pu faire à Toulouse avec Damien Comolli, chapeau. J'espère pour eux que les résultats sportifs pourront suivre, parce que je crois que c'est que ça serait une très belle histoire pour les supporters qui auraient très bien pu avoir peur d'un fonds. Un fonds américain d'être venu et qui, dès le départ, ont dit on va leur donner une chance, plutôt que dès le départ dire non. Ouais. Un peu comme ce qui se passe à Newcastle. Après Newcastle, le côté on va leur donner une chance, je crois qu'ils en avaient eu assez de l'ancienne direction.
Ouais.
Après, on va. Ce ne sont pas des Américains, ce sont, on va dire, une autre forme d'investissement. Mais si les deux options. C'est la faillite, donc la descente en N3 ou en N2 ou en régional, ou être repris. Je crois qu'il faut avoir au moins un peu de respect pour toute personne qui
prend le pari,
le courage de reprendre.
Après, ce sera la responsabilité des dirigeants aussi, des dirigeants vendeurs, de ne pas vendre à n'importe qui. Et très souvent, j'ai l'impression qu'en France, il y a beaucoup de dirigeants, ils ont essuyé les plâtres, ils en ont marre, ils veulent vendre au premier qui arrive, quoi. Le cas, j'ai fait Strasbourg-Saint-Étienne. Alors, je suis pas au fait, hein, mais j'ai l'impression que Saint-Étienne, ils font la tournée de tous les fonds qui sont capables de mettre de l'argent et puis ciao, bonsoir.
Et en même temps, et c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai l'impression que les clubs de foot disparaissent jamais. Est-ce que ça rassure pas aussi les investisseurs qui mettent de l'argent en disant, de toute façon, si ça marche pas, on revendra, parce que le club de foot, c'est pas, on trouvera toujours un repreneur. Si tu prends les 20 ou 30 dernières années, il y a des clubs qui sont descendus en National 3, même en CFA. C'est des clubs qui trouvent des repreneurs, qui reviennent. Donc, t'as l'impression que tout le monde sera, enfin, pas tout, que, il y aura toujours quelqu'un.
Des Phoenix.
Ouais, mais il y aura toujours quelqu'un qui sera prêt parce que c'est du sport, parce que c'est des métiers passion. Bah, moi, je vais prendre le pari d'aller racheter mon club de cœur. Et est-ce que ça, c'est pas rassurant pour les fonds de se dire, OK, si les objectifs sont pas remplis en année 1 ou en année 2, de toute façon, je vendrai pas nécessairement, j'aurais pas trop perdu parce que je trouverai toujours quelqu'un pour racheter le club.
Les clubs de foot, ça peut disparaître. Là, en Italie, les Las Verona, ils ont pas trouvé de repreneur. Mmh. Ils ont disparu. Strasbourg, quand ils ont fait faillite, ils ont repris de, je crois que c'était la CFA2 à l'époque.
Ouais. CFA2, Mark Keller.
Et avec Mark Keller, donc ils ont repris d'une base très très locale. Et aujourd'hui, ils sont restés avec cette base très locale. J'étais pas dans les coulisses de ce qui se passait à Bordeaux, mais de ce que je peux comprendre, le club était à quelques heures
de. Ouais.
De
on parle du dernier achat.
D'une petite catastrophe.
Tu parles du dernier achat.
Je parle du dernier achat.
Ouais.
Et dans ce cas-là, est-ce que le club en France disparaît? Non. Le club repart de là où joue sa réserve. Mais repartir de là, rien n'est garanti. Et ça dépend du contexte local. Le contexte local à Strasbourg, c'était un contexte de support envers le club, support de la part des supporters aussi. Je crois que quand ils étaient en CFA2, en CFA, ça jouait devant 15 000 personnes.
Ouais, c'était la plus grande audience, la plus grosse audience.
Et puis, je ne sais pas. Je sais. Le loyer, par exemple, du Stade Galice, du Matmut Atlantique, je ne sais pas s'il serait descendu à zéro.
Il y a des frais, il y a des coûts annexes.
Il y a certains clubs, Et c'est, d'ailleurs, c'est même M. Lopez qui l'a dit, Bordeaux est un club qui ne peut qu'exister en première division. Et après, si ce n'est pas le cas, il faut repartir sainement, on va dire. Ça crée des gros soucis. C'est une catastrophe industrielle à l'échelle de cette boîte, de ce club. Que ce soit là, je ne sais pas ce qui se passera si Saint-Étienne, par exemple, ne trouve pas, comme tu parlais de Saint-Étienne, ne trouve pas de repreneur. Parce qu'aujourd'hui, et certains autres clubs aussi en France, il y a ces déficits-là, c'est pas 2 ou 3 millions qu'il faut aller trouver, c'est plusieurs dizaines de millions.
Et c'est pour ça que les seuls repreneurs possibles, du coup, c'est des fonds et c'est les gens qui sont capables d'amasser les...
Et après, pourquoi est-ce que les fonds veulent venir là? C'est beaucoup de personnes, donc d'où le côté l'argent fait l'intelligence, c'est je vais réussir là où les autres n'ont pas pu, parce que je sais comment faire, parce que je suis entouré des bonnes personnes, parce que j'ai la bonne stratégie en place. Après, le foot, c'est pas comme une boîte agricole, ou c'est pas comme l'EDF où tu peux dire je vais changer tel ou tel processus et puis ça va me rapporter 2% en bénéfices en plus et ça va me réduire ma masse salariale. Non. C'est pas
c'est
ça le
chose.
Foot.
C'est
en rachetant un club de foot, beaucoup de fonds, beaucoup d'investisseurs font l'erreur de racheter le club de foot et dans leur business plan, ne pas dire la première année ou les premières 2 ans, ou les premiers 3, 4, 5 ans, on est prêt à perdre X millions par an. Ils se disent, on va faire ça, on va tout changer et on va dire, on va être européen tous les ans, donc on va... Non, on peut pas avoir un... Ce n'est pas un projet de dire on sera européen tous les ans, donc on a 15 millions de droits télé au moins avec l'Europa.
Il faut un discours honnête en fin de compte par rapport aux supporters.
Mais même pas par rapport aux supporters, c'est par rapport aux investisseurs. Les opérateurs qui vont faire des levées pour chercher telle ou telle somme d'argent auprès de telle ou telle banque, ces banques-là, très souvent, donc il y en a de plus en plus qui sont déjà investis dans le foot, dans le sport aux États-Unis ou dans le sport automobile ou ce qu'on veut. Mais il y en a beaucoup qui ne savent pas, qui ne connaissent pas les risques qui ne savent pas que juste parce qu'on a le 7e budget de Ligue 1, on sera 7e. Non, c'est très facile d'avoir le 7e budget de Ligue 1 et d'être relégué. Et c'est pas du 1 pour 1. C'est pas si on met X, on reçoit Y. Et en fait, là, de plus en plus, ces fonds-là deviennent de plus en plus... deviennent intelligents. Mais commencent à savoir les critères de sélection. On va éliminer les droits télé de tout calcul, on va éliminer telle ou telle chose et on va regarder en fait la base du club, la base des joueurs, de l'académie, de qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on doit faire pour augmenter le côté extra droits télé, parce que ça, c'est 100% lié aux sportifs. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour maximiser nos revenus sur l'extra-sportif sans être 100% dépendant des résultats sportifs. Ouais, et on ne pourra jamais. C'est malhonnête de dire si on fait des belles offres au stade, les gens reviendront même si on est 16e.
Alternative football.
Les fonds d'investissement, quand ils arrivent, très souvent, alors ils font un peu peur. Pourquoi ? Parce qu'ils rationalisent tout, en fin de compte. Et donc, la conséquence, une des premières conséquences, c'est qu'ils limogent, en fin de compte, des salariés. Pourquoi ? Parce que c'est justement, il n'y avait pas d'optimisation. Il y avait beaucoup de personnes et très peu de valeur, en fin de compte. Donc, c'est ça, c'est ramener du sens dans tout ce qu'ils font. Non, j'essaie juste de faire comprendre qu'un fonds d'investissement essaie de ramener du sens.
Yeah.
Qu'est-ce qui est pas expliqué que, par exemple, on était 70 et puis là, finalement,
y a pas
on
d'émotion.
Être que 50.
C'est-à-dire que c'est
moi, froid, quoi.
Pour l'avoir vécu, il y a, quand un fonds investit dans un business, il y a aucune forme d'émotion. C'est-à-dire, comment on dit, tout est calculé. C'est-à-dire que tu as des lignes de coûts, tu as des lignes de revenus. Comment on fait en sorte d'augmenter l'écart entre les deux et faire en sorte que l'écart soit le plus grand possible. Donc, il n'y a aucune émotion. Et c'est ça qui est violent parce que la manière dont on fait du business en Europe, elle n'est pas celle-là. C'est-à-dire qu'il y a un côté social dans la manière dont on travaille qui reste important. Et la méfiance de l'industrie du foot et des fans de foot vis-à-vis des fonds d'investissement, elle est aussi là. Elle est dans, ouais, on devient une entreprise, alors qu'en fait, quand tu as un club de foot, tu l'es déjà. Et donc, l'entreprise, c'est l'inverse de la passion.
Professionnel,
ouais.
Bien c'est sûr. Ça, c'est pour ça que je distingue entre amateur et professionnel.
Ouais. À Bordeaux, j'avais passé mes deux premiers mois à parler avec une grosse partie des salariés, énormément des salariés, que ce soit sportifs ou extra-sportifs. Et je posais très souvent les trois mêmes questions, ou enfin ces trois questions, pour comprendre le travail qui était fait. Et pour remettre en cause un peu le travail que cette personne faisait. C'est première question, est-ce que ce que tu fais aide à augmenter le chiffre d'affaires, les revenus? Est-ce que deux, ça aide plutôt à réduire les coûts? Ou trois, est-ce que ça aide à développer la fanbase? Est-ce que ça aide à faire amener plus de supporters? Et si ce que tu fais ne répond à aucune de ces trois questions, pourquoi est-ce que tu le fais? Et la réponse de pourquoi est-ce que je le fais, c'était très souvent parce qu'on l'a toujours fait comme ça. Mmh. Et c'est ce côté, parce qu'on l'a toujours fait, qui est la pire des réponses, parce que ça veut dire qu'il n'y a jamais une remise en cause. Et très souvent, des clubs qui sont un peu pas professionnels, je vais pas dire à la rue, mais qui ne sont pas optimisés, c'est que il n'y a jamais eu cette remise en cause, mais il n'y avait aussi jamais eu une direction très claire de là où on a envie d'aller. À Bordeaux, il y avait beaucoup de sujets de conversation, de la belle endormie, de regarder tellement de salariés, etc. Mais c'est pas une question de salariés. De temps en temps, c'est juste une question d'optimisation. Est-ce que les employés sont au bon endroit? Est-ce qu'ils sont en train de faire les bonnes choses, ou est-ce qu'en fait leurs compétences seraient mieux utilisées quelque part d'autre? Et en fait, ces questions-là, le côté en fait, ça fait depuis 7 ans que je suis dans ce service, mais en fait, je pourrais à Beveren, en Belgique, la jeune femme qui était comptable depuis 3 ans, maintenant c'est la directrice ticketing, parce que en lui posant des questions, donc pendant la dernière année, on n'avait pas de fans, il n'y avait pas de spectateurs au club, au match, donc on a eu le temps de se faire une remise en cause de historiquement, quelles sont les données, les paniers moyens, les prix, est-ce qu'il y a eu une fluctuation d'année sur année, de qui achète où, par exemple. Et l'ancienne personne qui était au ticketing, en fait, sa réponse à lui, c'était tout ce qui touche revenu, c'est la comptable qui sait. Donc, en fait, tout ce qu'il y avait de stadium revenues, comme ils disent aux États-Unis, c'est la comptable qui était au courant de tout. Et donc, je lui dis, mais en fait, pourquoi est-ce que tu gères pas le côté stade. Ouais. Elle dit, parce que j'ai fait des études de compta. Est-ce que tu as envie de faire? Oui, j'adore. Voilà.
Ah, allons-y.
Il n'y avait jamais de remise en cause. Et aujourd'hui, aujourd'hui en deuxième division, on a plus d'abonnés que l'année dernière, beaucoup plus. Et notre panier moyen est déjà plus grand que celui qu'il y avait à Bordeaux. Donc après, oui, les gens ont le droit d'acheter de la bière, donc je crois que c'est en grosse partie à cause de ça. Mais voilà, remise en cause.
La raison pour laquelle on vient en Europe aujourd'hui au foot, c'est de se dire, il y a un gros marché et il y a gros besoin d'optimisation. C'est mon métier de faire de l'optimisation, j'y vais parce que je suis un fond.
Oui, okay. C'est ça. Et les grosses lignes, je saurais comment les adresser mieux que ceux d'avant. Donc, il y en a beaucoup qui parlent de data, de scouting, de network, etc. Après, il faut avoir les bonnes personnes.
Il faut exécuter.
Il faut exécuter.
Je confirme, acheter de la data, ça m'arrange.
Et après, une fois que j'ai de la data, après, il faut la raffiner, il faut la comprendre, faut l'utiliser. Faut l'analyser, faut l'utiliser.
Ça sert à rien.
Investissez dans le data analyst, ça m'arrange parce, aussi.
Parce que la data, il y en a plein qui l'ont. Hein. De plus en plus, il y en a plein qui l'ont, mais ils ne savent pas l'exploiter.
On, est, on a un data analyst, on a deux personnes et demie qui sont ou bien scouts ou bien purement data dans notre structure. Mmh. Et quand je parle de notre structure, je parle non seulement du club, mais aussi de notre structure mère qui détient aussi les clubs de Alcorcon en Espagne, Estoril au Portugal et des parties de Palace et de Augsbourg.
Et pourquoi c'est maintenant qu'ils viennent au football européen ? C'est pas fait plus tôt ?
Donc il y a beaucoup de fonds qui ont investi ou les personnes qui sont en tête des fonds avec leur propre argent qui ont investi dans le sport aux États-Unis. Mais au final, tu as 32 franchises de NFL, tu en as 32 de NBA, tu en as une trentaine de Major League Baseball, encore une fois, 32, je crois, de NHL. Mmh. Donc, ça fait 128, là. Plus, maintenant, les clubs de MLS, donc, ils viennent juste d'accepter le 30e ou le 31e. Ouais. Donc, t'as 150 clubs, 150 structures sportives professionnelles aux États-Unis dans lesquelles tu peux acheter une part ou racheter le club et te dire propriétaire de club. Mais en fait, t'as un manque... t'as très peu de assets de clubs à vendre aux États-Unis. Et un club de NFL, je crois que là, récemment, les derniers chiffres, c'est un club moyen, c'est 2 milliards de dollars. Mmh. Donc, pourquoi pas aller en Europe, là où tout le monde se dit « Ah, ben tiens, c'est le plus grand sport mondial. Ça commence à se développer aux États-Unis, mais les États-Unis, ça reste un marché petit pour le foot par rapport à l'Europe. Ouais. Je suis riche, je suis américain, donc je suis confiant en mes capacités. Je sais que je vais pouvoir choisir les bonnes personnes pour mener mon projet. Et le sport, ça reste le sport. J'ai pas à me faire des soucis sur les particularités ou les spécificités du foot européen. Et c'est ça qui incite à acheter. Et que maintenant, c'est presque... tel ou tel pote à moi qui a tel ou tel fonds, eux, ils viennent juste de racheter un club en Italie. Pourquoi est-ce que je ne regarderais pas un club en Italie ? Ou ça rachète des clubs au Danemark, en Belgique, en France, en Angleterre, en Espagne, au Portugal. En Suisse, je crois qu'il y a quelques actionnaires internationaux. Pourquoi pas moi, tu vois ? C'est un peu ça. C'est, c'est juste 5 millions ou 7 millions, pourquoi pas moi ?
Ça va être
et ça, c'est les projets un peu, on va dire, banco. Ou les projets où ça dépend énormément de la personne qui est sur place.
Donc effectivement, le fait d'investir dans les clubs, on l'a beaucoup vu ces dernières années. Il y a une mouvance qui est un petit peu nouvelle, c'est l'investissement dans les ligues. Ouais. CVC qui a pris des parts dans la Liga, il regardait pour aussi investir dans Bundesliga internationale qui adresse les droits de la Bundesliga. La LFP est en train de regarder pour créer une société commerciale. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Pourquoi un fonds irait plus dans l'investissement vers une ligue que dans un investissement vers un club ?
Je crois que c'est ce côté sécurité. On en parlait il y a quelques minutes. Un club peut disparaître, une ligue non.
Ouais.
Si une ligue disparaît, c'est...
C'est vraiment qu'il y a eu beaucoup de facteurs concordants.
Mais la ligue, donc ça dépend de quelle ligue. Il y a des lois différentes entre la Liga et la Serie A et la LFP en termes de négociation des droits télé, des revenus qui sont propres à la ligue par rapport
de redistribution aussi
mais c'est plus safe d'un point de vue politique, c'est presque plus important d'être au niveau de la ligue qu'au niveau du club, parce que il y a dans beaucoup de ces ligues là les clubs sont plus importants que la ligue, donc on se dit d'accord, si on rachète un autre club, en fait on va devoir se battre contre l'autre géant et on ne peut pas se battre. Donc au final, on va, si le but est politique, et quand je parle politique, politique financière, à la place de racheter un club et d'essayer de se battre pour quelques pourcents en plus sur les droits télé, sur la prochaine négoce, en fait, on va aller directement à la Ligue. On va racheter une partie de la Ligue pour dire, pour utiliser nos... contact nos connaissances des droits télé ou du côté financier ou médiatique pour mieux négocier et derrière pour récupérer, en fait, pour utiliser ça un peu comme de la dette récupérer une partie de notre financement de tous les ans.
Mais je crois que d'ailleurs la conclusion et la remédiation à notre question initiale, c'est pourquoi ils s'intéressent à l'Europe et au foot. C'est à peu près ce qu'on a dit, c'est-à-dire que le ticket d'entrée est abordable pour un fonds.
Il y a de l'optimisation, c'est optimisable comme terrain parce que c'est de cultures différentes. Et parce que c'est optimisable, il y a du profit. Et donc, je suis dans un marché qui est idéal pour mon métier, qui est d'investir, d'optimiser et de banquer derrière et d'avoir un retour sur investissement favorable. Et c'est pour ça qu'ils viennent en Europe et c'est pour ça qu'ils viennent sur le foot. Aussi parce que t'as une fanbase et donc t'as en volume beaucoup de clients potentiels et donc il y a de l'argent.
Et parce qu'il y a plus d'argent que dans les autres sports.
Ça.
Si d'ici demain, la Ligue de rugby... la Pro D1 chope 200 millions
Thomas,
de droits télé, tu verras,
oui.
Il y aura des fonds qui vont s'aligner.
Oui, bien sûr.
Et là, peut-être s'aligner sur Pau, je sais pas.
et là, Édouard Cissé, président du Pau Olympique,
section paloise.
Pardon.
Après,
j'ai deux sports, mais sur au-delà, faut pas trop m'en
demander. Pour l'avion.
Bonne chance pour le reste de la saison. On va suivre ça attentivement. Et puis, on
vous
viendra.
Êtes invité.
Eh ben, écoute,
vous êtes invité à Beveren.
T'as ramené le fagnon de Beveren? Non? La prochaine fois, tu.
Ah, bah oui, je te ramène le fagnon.
Édouard Cissé qui gratte des maillots sur le podcast.
Non, mais il a vu une salle où il y a plein de. Il y a une collection de fagnons et il n'y avait pas celui de Beveren.
Voilà.
Ça serait bien. Tu me l'enverras.
Tu m'envoies ton email et comme ça je te mets dans la database et
Il va t'envoyer des offres. Il va t'envoyer des offres. Tu vas acheter des maillots.
CQMD, on a bien compris. Optimisation.
Merci beaucoup en tout cas. On a passé un super moment et on se retrouve très vite.
À très vite les gars.
Salut
ciao,
à tous.
Ciao.
Alternative football.
Beaucoup en parlent.
On parle de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Crois-moi, ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative football.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.